les podcasts de Radio Vatican.
L'ONU s'engage en faveur d'un monde sans armes atomiques. L'Assemblée générale a voté en effet vendredi dernier, le 7 juillet, un traité les interdisant. La veille, les évêques européens et américains ont lancé un appel appuyant les efforts de l'ONU. Dans une déclaration conjointe, les membres des conseils justice et paix des États-Unis et d'Europe ont exprimé leur opposition au développement des arsenaux nucléaires et ont indiqué un certain nombre de mesures pour parvenir à un monde sans ce type d'armes. Tous les pays détenteurs de l'arme atomique ont cependant refusé de participer à ce processus. Cette opposition réduit du coup la portée du traité, essentiellement symbolique, mais les évêques catholiques américains et européens, dont les États se sont opposés au texte, ont décidé d'entrer dans le débat pour rappeler avec force l'opposition de l'Église à ces armes. Monseigneur Jean-Claude Olrich, archevêque de Luxembourg, président de la conférence des commissions européennes justice et paix, est l'un des deux signataires de l'appel des évêques. Il est bien sûr heureux de l'adoption du traité.
Certains commentateurs estiment qu'ainsi les bases ont été jetées pour un monde sans armes nucléaires. C'est en tout cas le premier accord multilatéral contraignant pour le désarmement nucléaire depuis 20 ans. Je m'en félicite. Il faut espérer que c'est un premier pas en direction de l'abolition des armes nucléaires. Pour l'Église, un monde sans armes nucléaires reste l'objectif. Le pape François, de nombreux évêques dans le monde l'ont rappelé avant et au cours de cette négociation. Il va falloir le rappeler après cette conférence. Et voilà donc le sens de notre déclaration. Dans le monde d'aujourd'hui, avec ses menaces multiples, la doctrine de la dissuasion nucléaire n'est pas la réponse adaptée. Nous mesurons les menaces qui pèsent sur l'humanité par l'utilisation de ces armes, les dégâts écologiques de leur utilisation éventuelle, les coûts immenses du développement de ces armes. Alors nous continuons à dire non.
Le contexte international et notamment les essais de missiles balistiques nord-coréens en ce moment, est-ce que cela vous préoccupe tout particulièrement ?
Bien entendu, c'est très inquiétant, surtout que j'ai vécu 23 ans au Japon, dans le pays voisin de la Corée. Et la Corée du Nord poursuit son projet de développer les armes nucléaires et balistiques. Elle le fait en ignorant le traité de non-prolifération des armes nucléaires, et elle le fait comme d'autres l'ont fait avant. Donc c'est très préoccupant pour la région, que je connais donc très bien, mais c'est aussi un danger pour le monde entier.
Comment expliquez-vous que les États-Unis et la plupart des États européens n'aient pas participé à cette conférence et surtout n'aient pas apposé leur signature à l'accord signé à l'Assemblée des Nations Unies ?
Mais je voudrais vous donner un autre mouvement général préoccupant. Lundi, l'Institut CIPRI à Stockholm a présenté ses données annuelles concernant les armes nucléaires. Il en ressort que le nombre d'armes a légèrement baissé. Il y avait en janvier 2016 15 395 têtes nucléaires. En janvier 2017, seulement 14 935. Cela semble être positif, mais il faut aussi dire que tous les États concernés, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord, sont engagés dans un nouveau cycle très coûteux de modernisation de leurs armes. Ainsi, dans les 10 années à venir, les États-Unis vont dépenser 400 milliards de dollars pour moderniser leur arsenal. C'est un peu la même chose pour les autres États, la même tendance, et cela montre que tous ces États ont l'intention de s'installer durablement dans la logique de la dissuasion. Ils ne sont pas vraiment prêts à réduire leur arsenal nucléaire. Ceci explique, me semble-t-il, leur non-participation à la conférence.
Alors, dans ce contexte, comment l'Église peut contribuer à faire changer les mentalités et à convaincre toutes ces principales puissances nucléaires de renoncer à leur arsenal ?
C'est bien ce que l'Église doit faire. Elle doit répéter sans cesse, comme le fait le Saint-Siège, comme le font les évêques et de nombreux mouvements d'inspiration chrétienne, qu'une autre architecture de sécurité est possible, qu'une stabilité stratégique ne peut être atteinte par ces moyens. C'est ce que nous redisons. C'est ce que mon collègue américain et moi-même, en tant que président du réseau Justice et Paix en Europe, nous disons dans notre déclaration de jeudi. Le chemin sera compliqué et long, mais l'Église ne peut pas se taire, et je pense que la voix de l'Église, surtout depuis le pontificat du pape François, est quand même entendue par les gens dans nos démocraties de l'Ouest.
Cette déclaration entre les évêques européens et américains, est-ce que c'est le fruit d'une démarche inédite ou est-ce qu'elle s'inscrit dans un processus de collaboration entre les églises européennes et américaines, principalement sur ce thème des armes nucléaires ?
Ben, il faut bien que les évêques collaborent dans le monde entier. Et c'est sur un autre sujet, celui des TTIP, que les évêques européens et les évêques américains se sont déjà exprimés ensemble en 2016. Nous savons que le volet est fermé maintenant. Mais cela nous a permis de nous exprimer une deuxième fois, et cette fois-ci au niveau de justice et paix, en respectant les priorités des différentes instances. C'est une bonne chose, et cela soutient l'action efficace du Saint-Siège au niveau international. Dans le cas concret, nous avons pris parole, car nos gouvernements européens et américains ont très majoritairement pas voulu prendre part à la conférence des Nations Unies. Et ce n'est pas une bonne chose de refuser, pour ainsi dire, le dialogue sur ce sujet grave. Mais je pense que dans le domaine de justice et paix, les évêques doivent plus collaborer, ensemble avec le Saint-Siège, pour donner une voix à l'Église.
Un entretien réalisé par Xavier Sartre.